Chapitre 29. Carnet de bal. Sabie et Lunella s'étaient installées sous la pyramide. Elles avaient descendu une des tables du salon des sept cheminées, l'avaient recouverte d'une nappe blanche, posé un énorme bouquet de camélias sur le côté, deux chaises, deux stylos et un grand cahier pour deux. Devant elles, un petit écriteau indiquait « Ministère du temps passé à ne rien faire », inscription pour le grand bal. Là où elles étaient placées, il était impossible de les rater. Les ados des trois pavillons devaient passer devant elles pour se rendre au petit déjeuner. La plupart sortaient des dortoirs en pyjama, décoiffés, mal réveillés. Leur tenue négligée tranchait avec l'élégance des deux Lolly Girls, habillées en jumelles inversées, robe bleu nuit et grand chapeau jaune soleil pour Sabie, robe jaune soleil et grand chapeau bleu nuit pour Lunella. Au-dessus d'elle, la neige tombait sans discontinuer sur la pyramide de verre, formant un épais plafond de coton qui assombrissait le grand hall du château, au point qu'elles finirent par allumer autour d'elle une dizaine de bougies parfumées à la lavande, au pain d'épices et à la fleur d'oranger, rendant l'aménagement de leur décor plus romantique encore. La file d'attente grossissait devant leur table, au fur et à mesure que les occupants du château se réveillaient, déjeunaient, se douchaient, s'habillaient. Les ados venaient s'inscrire à deux. C'était la consigne. Sabie et Lunella tenaient à s'assurer que les cavaliers et les cavalières étaient mutuellement consentants. Seuls les deux premiers couples de la liste avaient été notés sans que le protocole soit respecté. Alix et Zizo, Sabie et Akan. Depuis, la liste s'allongeait. Cheyenne et Wayne étaient venus parmi les premiers à 8 heures précises. Gulo-Gulo s'était présenté avec Flabelle, une petite cuisinière experte en herbes et champignons, dodue et gourmande. Soutim, le poète, avait revêtu un étrange costume à paillettes, aussi blanc que sa peau était noire, pour leur déclarer, avec fierté, qu'il était le cavalier d'Isalis, qui attendait quelques mètres derrière lui, visiblement excédé par ses formalités. Le défilé continuait, composé de couples, mixtes ou pas. Moebia et Pastor, Tiphaine et Coriolis, Nadir et Coco, Mouk et Diana. Pépin le moineau resta planté devant Sabie sans dire un mot pendant une bonne minute, espérant peut-être qu'elle le dissuade de choisir comme cavalière Fanfan, une fille moineau du château, pâle et fragile, aux dents écartées et aux yeux fuyants, qui eut le temps pendant l'attente de se ronger les ongles jusqu'au sang. Une fois chaque inscription validée, Lunella distribuait à chaque cavalier et cavalière deux petites meringues à la fraise en forme de cœur, à ne manger qu'en cas de séparation. Chacun appréciait, souriait, riait. Les affaires du ministère du temps passé à ne rien faire commencèrent à se compliquer une fois que tous les couples qui ne posaient aucun souci furent inscrits. Valère vint seul, le regard larmoyant, la bouche tordue de peur, et supplia Sabie d'attendre. Aucune fille n'avait pour l'instant accepté de sortir avec lui, mais il testait la nouvelle huile végétale pour le visage, mise au point par Lunella, qui en moins de 15 jours ferait disparaître les boutons rouges sur son visage. Après ça, il n'aurait que l'embarras du choix. Toutes les Lolly Girls se battraient pour aller au bal à son bras. Sabie et Lunella hochèrent la tête, compréhensives, tout en évitant de baisser les yeux vers les meringues à la fraise posées sur la table, aussi rouges et rondes que la tête du savant. Olympe et Minerva, les singes chouchoutes d'Isalis, vinrent faire une demande à peu près équivalente. Elles étaient certaines que les deux plus beaux soldats, Novak et Helios, voudraient d'elles pour cavalière, mais ils étaient embarqués depuis des semaines sur l'Albatros. Le voilier serait forcément rentré lors du grand bal. Il serait injuste d'en priver les marins sous prétexte qu'ils n'étaient pas présents lors de l'inscription. Sabie avait beau détester Olympe et Minerva, elle devait bien reconnaître que ces deux pimbèches avaient raison. De toutes les façons, le grand bal n'aurait lieu que dans 3 mois. D'ici là, beaucoup de nouveaux couples se formeraient, se casseraient et nombre de meringues roses seraient avalées. Elle devait se préparer à sacrément raturer son cahier. De plus, beaucoup de garçons et de filles n'étaient pas venus s'inscrire. Aucune nouvelle, par exemple, de Chrysanthe. Elle n'était même pas passée devant la table pour déjeuner. Côté ministre, ni Vanil, ni Liu ne s'étaient présentés. Et, évidemment, encore moins Augénor. Elle ne doutait pas qu'eux aussi céderaient et finiraient par venir au bal accompagnés. Qui avec qui? Le suspense restait entier. Parier sur les derniers célibataires occuperait leur conversation tout l'hiver. Les deux Lolly Girls inscrivirent de nouveaux couples pendant presque une heure. Philao, le doux jardinier aux cheveux toujours en bataille, vint au bras de Florentine, la moins bagarreuse de tous les soldats. Suzy la Pipelette présenta, avec des éclats de voix dignes d'une cantatrice d'opéra, son cavalier, Matifou, le leader, chanteur et musicien du seul groupe au monde de New World. Quand Sabi et Lunella se retrouvèrent enfin seules sous la pyramide, elles s'offrirent chacune une lollipop speed acide bien méritée.
« Ils ont raison !»
fit Sabi, la bouche collée.
« On doit attendre le retour de l'Albatros pour boucler la liste. »«
Tu parles. Novak et Helios ne voudront jamais de ces dindes d'Olympe et Minerva. »«
Je ne te parle pas d'elles !»«
Mais il n'y a pas que des soldats sur le bateau. »« Tiens, à ton avis, qui sera la cavalière de ton frère ?»
Solario ? Sabi suça avec gourmandise sa lollipop parfumée au concentré de citron vert.
T'as un autre frère ? Allez, vous êtes reliés tous les deux par des ondes magiques, tu dois bien savoir qui il va choisir.
Sûr que je sais. Et tu devinerais aussi ma grande, si tu réfléchissais un peu.
Sabi plaça deux doigts sur son crâne, en forme d'antenne, prit l'air inspiré, puis secoua la tête pour signifier qu'elle ne captait rien.
« Eh bien, très cher, fit Lunella, pour te mettre dans la confidence, mon frère Solario, grand ministre des voyages, rêve de venir au bal avec le meilleur ami du meilleur ami de ta meilleure amie. »
Sabi faillit en avaler sa sucette.
« Tu me la refais au ralenti ?»
Lunella expliqua de son inimitable voix douce. « Ta meilleure amie ?»«
Alix ?»«
Évidemment. » Et son meilleur ami ?
Zizo ?
Bien sûr. Et son meilleur ami ?
Peut-être même un peu plus d'ailleurs qu'un meilleur ami ?
Ah, Agnelle ? Exactement, s'amusa Lunella. Tu n'as pas remarqué qu'Agnelle a toujours préféré les garçons ?
Et coup de chance, je peux t'assurer que mon frérot aussi.
Sabi mit un moment à réagir avant de sauter sur sa chaise, surexcité par l'idée.
Génial! Un couple de garçons! Ça, c'est de la révolution! Augénor, Isalis, Vanille et les autres rabat-joie vont adorer!
J'espère qu'il y aura aussi des couples de filles!
Elle adressa un clin d'œil à Lunella qui ne répondit pas.
Et toi?
Poursuivit Sabi, intriguée.
T'es toujours pas inscrite? Tu choisis qui? Olympe? Minerva?
Chrysante la collante?
« Mordelia !»
Lunella rougit.
« Liu m'a demandé, mais... »
Sabi battit encore des mains.
« Le petit ministre des inventions, il est tout mimi, tout gentil.
Et c'est un génie. Qu'est-ce que t'attends pour dire oui ?»
Lunella baissa ses jolis yeux bleus, se tordit les mains. Sabi la devinait au bord des larmes. Pour la première fois, en voyant ainsi son amie, elle se demanda si ce grand bal était une bonne idée. N'avait-elle pas été égoïste? Une dizaine de garçons étaient prêts à l'inviter au bal, et elle avait choisi pour cavalier un garçon auquel aucun autre n'arrivait à la cheville. Ses sentiments pour Akane étaient tellement évidents, et réciproques. Mais pour une belle histoire, combien de filles et de garçons seraient pétris de doutes, torturés de jalousie, désespérés au point d'en perdre le goût pour la vie? Finit par avouer Lunella. Je ne sais pas si je l'aime. Le reste de la journée se déroula dans une ambiance étrange. La désignation des candidats au tournoi de l'étoile avait été éclipsée par celle des couples du grand bal, comme si la compétition entre les trois pavillons avait presque perdu soudain tout intérêt. Mais surtout, les ados regardaient le ciel à travers les fenêtres ou la pyramide de verre d'un œil inquiet. La neige continuait de tomber, et d'après les prévisions météorologiques de Coriolis, elle ne s'arrêterait pas avant le lendemain matin, alors que le vent allait se lever,
et les températures continuaient de chuter. Le jour le plus court de l'année serait aussi le plus froid. C'était pourtant celui où tous les enfants devaient sortir à la nuit tombée, ceux du château portant une bougie, ceux du tipi, un oiseau dans une cage. Personne n'avait évoqué, ni même envisagé, un report ou une annulation de la veillée du sanctuaire. Cette veillée avait pour eux encore plus d'importance depuis la chute du soleil de fer et depuis que les deux tribus étaient réunies sous le même toit. Tous ignoraient pourquoi Marie-Lune et les autres adultes survivants avaient gravé dans la mémoire des enfants cette cérémonie, mais tous savaient ce qu'elle représentait. Le souvenir. Le souvenir de chaque parent disparu. Tous avaient vu des tableaux, des photos, des vidéos de ces fêtes de Noël, de ces familles réunies, de ces repas partagés, de ces cadeaux déballés. Tous savaient qu'ils ne connaîtraient jamais la magie de ces instants, seulement les pierres froides d'une cathédrale. Mais tous espéraient en secret, sans jamais en parler, devenir assez grands pour reconstruire un nouveau monde. Alors, devenus adultes, ils éclaireraient le jour le plus court de l'année de 1000 lumières et offriraient ce Noël magique qu'ils n'avaient pas connu à leurs futurs enfants. Les portes du château s'ouvrirent, peu de temps, assez néanmoins pour que le froid, le vent et les flocons s'engouffrent. Le temps que tous les ados, rangés en deux files, vêtus de manteaux, gants, écharpes, bonnets, sortent pour affronter la nuit et la température glaciale. Le sanctuaire était tout près, à peine 10 minutes de marche. La seule réelle difficulté consistait à pousser au Génor. Une bonne trentaine de centimètres de neige recouvrait chaque rue, chaque pont, et les roues de son fauteuil ne tourneraient pas 2 mètres avant de se bloquer. Liu avait anticipé et chargé les savants de trouver une solution. Pastor et Moebia avaient fabriqué dans l'urgence une chaise à porteur, c'est-à-dire une sorte de petit placard fermé que l'on pouvait soulever à l'aide de 2 manches à balai. Augenor s'y était installé avec Puggy, alors que Django et Idris le portaient. Akan marchait en tête de la procession du tipi, Alix en tête de celle du château. De front, silencieux. En pénétrant dans le sanctuaire, tous ressentirent une délicieuse sensation de chaleur. Les savants, en prévision de la cérémonie, avaient fait brûler des feux dans la cathédrale à chaque jour de la semaine afin de la réchauffer de quelques degrés, préférant courir le risque d'en incendier la charpente plutôt que de mourir de froid. Chaque tribu se rangea d'un côté, le château à droite, le tipi à gauche. Depuis la chute du soleil de fer, la cérémonie n'était plus rythmée par les lasers bleus qui traversaient les vitraux. Elle durait pourtant strictement le même temps, 1 heure. 1 heure de recueillement, de prière, de souvenirs à jamais enfouis, avant que le chant puissant de 200 enfants ne vibre dans le silence de pierre. Nous, les enfants du nuage, tous orphelins, sans souvenirs, puisque nous avons le même âge, serons gardiens du même avenir. Marie-Lune veille sur notre bonheur, elle guide nos pas, ouvre nos yeux, et si ce monde était trop vieux, nous en construirons un meilleur. Soutim avait promis d'ajouter de nouveaux couplets pour les années futures. Les bougies de ceux du château commençaient à baisser en intensité. Akan se leva. Avec lui, tous ceux du tipi ouvrirent leurs cages, libérant 100 colombes. Tous gardaient la mémoire de la chute du soleil de fer, lors de cette cérémonie où les oiseaux malades étaient tombés comme des pierres. Mais ce mal était derrière eux. Les tribus étaient réconciliées. Comme l'exprimait leur chant, ils construisaient un monde nouveau, plus respectueux de la nature, des animaux, des... Un cri explosa soudain dans le silence de la cathédrale. Une adolescente, côté château, s'était avancée vers l'autel. Elle lâcha sa bougie et on ne vit plus d'elle qu'une silhouette secouée par une crise d'épilepsie.
« Il est en danger !»
cria-t-elle. Tous, cette fois, reconnurent la voix de Lunella.
« Solario est en danger !»
répéta-t-elle, hystérique.
« Je le sens ! Je le sais ! Un danger est mortel !»